comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 114. La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. Ma chère amie, je cède à ma vive inquiétude, et sans savoir si vous serez en état de me répondre, je ne puis m'empêcher de vous interroger. L'état de Monsieur de Valmont, que vous me dites sans danger, ne me laisse pas autant de sécurité que vous paraissez en avoir. Il n'est pas rare que la mélancolie et le dégoût du monde soient des symptômes avant-coureurs de quelques maladies graves. Les souffrances du corps, comme celles de l'esprit, font désirer la solitude. Et souvent on reproche de l'humeur à celui dont on devrait seulement plaindre les maux. Il me semble qu'il devrait au moins consulter quelqu'un. Comment, étant malade vous-même, n'avez-vous pas un médecin auprès de vous? Le mien, que j'ai vu ce matin, et que je ne vous cache pas que j'ai consulté indirectement, est d'avis que dans les personnes naturellement actives, cette espèce d'apathie subite n'est jamais à négliger. Et comme il me disait encore, les maladies ne cèdent plus au traitement quand elles n'ont pas été prises à temps. Pourquoi faire courir ce risque à quelqu'un qui vous est si cher? Ce qui redouble mon inquiétude, c'est que depuis 4 jours, je ne reçois plus de nouvelles de lui. Mon Dieu, ne me trompez-vous point sur son état? Pourquoi aurait-il cessé de m'écrire tout à coup? Si c'était seulement l'effet de mon obstination à lui renvoyer ses lettres, je crois qu'il aurait pris ce parti plus tôt. Enfin, sans croire au pressentiment, je suis depuis 4 jours d'une tristesse qui m'effraie. Ah, peut-être suis-je à la veille du plus grand des malheurs. Vous ne sauriez croire, et j'ai honte de vous dire, combien je suis peinée de ne plus recevoir ces mêmes lettres que pourtant je refusais encore de lire. J'étais sûre au moins qu'il était occupé de moi. Et je voyais quelque chose qui venait de lui. Je ne les ouvrais pas, ces lettres, mais je pleurais en les regardant. Mes larmes étaient encore plus douces et plus faciles. Et celles-là seules dissipaient en partie l'oppression habituelle que j'éprouve depuis mon retour. Je vous en conjure, mon indulgente amie, écrivez-moi, vous-même, aussitôt que vous le pourrez. Et en attendant, faites-moi donner chaque jour de vos nouvelles et des siennes. Je m'aperçois qu'à peine je vous ai dit un mot pour vous. Mais vous connaissez mes sentiments, mon attachement sans réserve, ma tendre reconnaissance pour votre sensible amitié. Vous pardonnerez au trouble où je suis, à mes peines mortelles, au tourment affreux d'avoir à redouter des maux dont peut-être je suis la cause. Grand Dieu, cette idée désespérante me poursuit et déchire mon cœur. Ce malheur me manquait, et je sens que je suis née pour les éprouver tous. Adieu, ma chère amie. Aimez-moi, plaignez-moi. Aurais-je une lettre de vous aujourd'hui?
I'm
Lettre 115. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. C'est une chose inconcevable, ma belle amie, comme aussitôt qu'on s'éloigne, on cesse facilement de s'entendre. Tant que j'étais auprès de vous, nous n'avions jamais qu'un même sentiment, une même façon de voir. Et parce que depuis près de 3 mois, je ne vous vois plus, nous ne sommes plus du même avis sur rien. Qui de nous deux a tort ? Sûrement, vous n'hésiterez pas sur la réponse. Mais moi, plus sage ou plus poli, je ne décide pas. Je vais seulement répondre à votre lettre et continuer de vous exposer ma conduite. D'abord, je vous remercie de l'avis que vous me donnez des bruits qui courent sur mon compte. Mais je ne m'en inquiète pas encore. Je me crois sûre d'avoir bientôt de quoi les faire cesser. Soyez tranquille, je ne reparaîtrai dans le monde que plus célèbre que jamais, et toujours plus digne de vous. J'espère qu'on me comptera même pour quelque chose l'aventure de la petite Volange, dont vous paraissez faire si peu de cas, comme si ce n'était rien que d'enlever en une soirée une jeune fille à son amant aimé, d'en user ensuite tant qu'on le veut, et absolument comme de son bien, et sans plus d'embarras, d'en obtenir ce qu'on n'ose pas même exiger de toutes les filles dont c'est le métier. Et cela sans la déranger en rien de son tendre amour, sans la rendre inconstante, pas même infidèle, car en effet, je n'occupe seulement pas sa tête, en sorte qu'après ma fantaisie passée, je la remettrai entre les bras de son amant, pour ainsi dire, sans qu'elle se soit aperçue de rien. Est-ce donc là une marche si ordinaire ? Et puis, croyez-moi, une fois sortie de mes mains, les principes que je lui donne ne s'en développeront pas moins. Et je prédis que la timide écolière prendra bientôt un essor propre à faire honneur à son maître. Si pourtant on aime mieux le genre héroïque, je montrerai la présidente, ce modèle cité de toutes les vertus, respecté même de nos plus libertins, telle enfin qu'on avait perdu jusqu'à l'idée de l'attaquer. Je la montrerai, dis-je, oubliant ses devoirs et sa vertu, sacrifiant sa réputation et 2 ans de sagesse, pour courir après le bonheur de me plaire, pour s'enivrer de celui de m'aimer, se trouvant suffisamment dédommagée de tant de sacrifices, par un mot, par un regard qu'encore elle n'obtiendra pas toujours. Je ferai plus, je la quitterai. Et je ne connais pas cette femme où je n'aurai point de successeur. Elle résistera aux besoins de consolation, à l'habitude du plaisir, au désir même de la vengeance. Enfin, elle n'aura existé que pour moi. Et que sa carrière soit plus ou moins longue, j'en aurai seul ouvert et fermé la barrière. Une fois parvenu à ce triomphe, je dirai à mes rivaux, « Vous voyez mon ouvrage, et cherchez-en dans le siècle un second exemple. » Vous allez me demander d'où vient aujourd'hui cet excès de confiance. C'est que depuis 8 jours, je suis dans la confidence de ma belle. Elle ne me dit pas ses secrets, mais je les surprends. 2 lettres d'elle à Madame de Rosemonde m'ont suffisamment instruit, et je ne lirai plus les autres que par curiosité. Je n'ai absolument besoin, pour réussir, que de me rapprocher d'elle, et mes moyens sont trouvés. Je vais incessamment les mettre en usage. Vous êtes curieuse, je crois. Mais non. Pour vous punir de ne pas croire à mes inventions, vous ne les saurez pas. Tout de bon, vous méritez que je vous retirasse ma confiance, au moins pour cette aventure. En effet, sans le doux prix attaché par vous à ce succès, je ne vous en parlerai plus. Vous voyez que je suis fâchée. Cependant, dans l'espoir que vous vous corrigerez, je veux bien m'en tenir à cette punition légère. Et revenant à l'indulgence, j'oublie un moment mes grands projets pour raisonner des vôtres avec vous. Vous voilà donc à la campagne, ennuyeuse comme le sentiment et triste comme la félicité. Et ce pauvre Belleroche, vous ne vous contentez pas de lui faire boire l'eau d'oubli, vous lui en donnez la question. Comment s'en trouve-t-il ? Supporte-t-il bien les nausées de l'amour ? Je voudrais pour beaucoup qu'il ne vous en devint que plus attaché. Je suis curieux de voir quel remède plus efficace vous parviendrez à employer. Je vous plains en vérité d'avoir été obligé de recourir à celui-là. Je n'ai fait qu'une fois dans ma vie l'amour par procédé. J'avais certainement un grand motif, puisque c'était à la comtesse de... Et 20 fois entre ses bras, j'ai été tenté de lui dire... « Madame, je renonce à la place que je sollicite et permettez-moi de quitter celle que j'occupe. Aussi, de toutes les femmes que j'ai eues, c'est la seule dont j'ai vraiment plaisir à dire du mal. » Pour votre motif à vous, je le trouve, à vrai dire, d'un ridicule rare. et vous aviez raison de croire que je ne devinerais pas le successeur. Quoi ? C'est pour Danceny que vous vous donnez toute cette peine-là. Ma chère amie, laissez-le adorer sa vertueuse Cécile et ne vous compromettez pas dans ses jeux d'enfants. Laissez les écoliers se former auprès des bonnes ou jouer avec les pensionnaires à de petits jeux innocents. Comment allez-vous vous charger d'un novice qui ne saura ni vous prendre, ni vous quitter, et avec qui il vous faudra tout faire? Je vous le dis sérieusement, je désapprouve ce choix, et quelque secret qu'il restât, il vous humilierait au moins à mes yeux et dans votre conscience. Vous prenez, dites-vous, beaucoup de goût pour lui. Allons donc, vous vous trompez sûrement, et je crois même avoir trouvé la cause de votre erreur. Ce beau dégoût de Belleroche vous est venu dans un temps de disette, et Paris ne vous offrant pas de choix, vos idées, toujours trop vives, se sont portées sur le premier objet que vous avez rencontré. Mais songez qu'à votre retour, vous pourrez choisir entre mille. Et si enfin vous redoutez l'inaction dans laquelle vous risquez de tomber en différent, je m'offre à vous pour amuser vos loisirs. D'ici à votre arrivée, mes grandes affaires seront terminées d'une manière ou d'autre. Et sûrement, ni la petite Volanges, ni la présidente elle-même ne m'occuperont pas assez alors pour que je ne sois pas à vous autant que vous le désirez. Peut-être même, d'ici là, aurais-je déjà remis la petite fille aux mains de son discret amant. Sans convenir, quoi que vous en disiez, que ce ne soit pas une jouissance attachante, comme j'ai le projet qu'elle garde de moi toute sa vie une idée supérieure à celle de tous les autres hommes, je me suis mis avec elle sur un ton que je ne pourrais soutenir longtemps sans altérer ma santé. Et dès ce moment, je ne tiens plus à elle que par le soin qu'on doit aux affaires de famille. Vous ne m'entendez pas ? C'est que j'attends une seconde époque pour confirmer mon espoir et m'assurer que j'ai pleinement réussi dans mes projets. Oui, ma belle amie, j'ai déjà un premier indice que le mari de mon écolière ne courra pas le risque de mourir sans postérité, et que le chef de la maison de Gercourt ne sera à l'avenir qu'un cadet de celle de Valmont. Mais laissez-moi finir, à ma fantaisie, cette aventure que je n'ai entreprise qu'à votre prière. Songez que si vous rendez Danceny inconstant, vous ôtez tout le piquant de cette histoire. Considérez enfin que, m'offrant pour le représenter auprès de vous, j'ai, ce me semble, quelques droits à la préférence. J'y compte si bien que je n'ai pas craint de contrarier vos vues en concourant moi-même à augmenter la tendre passion du discret amoureux pour le premier et digne objet de son choix. Ayant donc trouvé hier votre pupille occupée à lui écrire et l'ayant dérangé d'abord de cette douce occupation pour une autre plus douce encore, je lui ai demandé, après, de voir sa lettre. Et comme je l'ai trouvée froide et contrainte, je lui ai fait sentir que ce n'était pas ainsi qu'elle consolerait son amant, et je l'ai décidé à en écrire une autre, sous ma dictée. Ou, en imitant du mieux que j'ai pu son petit radotage, j'ai tâché de nourrir l'amour du jeune homme par un espoir plus certain. La petite personne était toute ravie, me disait-elle, de se trouver parler si bien, et dorénavant, je serai chargée de la correspondance. Que n'aurais-je pas fait pour ce Danceny ? J'aurais été à la fois son ami, son confident, son rival et sa maîtresse. Encore en ce moment, je lui rends le service de le sauver de vos liens dangereux. Oui, sans doute, dangereux, car vous posséder et vous perdre, c'est acheter un moment de bonheur par une éternité de regrets. Adieu, ma belle amie. Ayez le courage de dépêcher Belleroche le plus que vous pourrez. Laissez-la Danceny, et préparez-vous à retrouver et à me rendre les délicieux plaisirs de notre première liaison. Post-scriptum. Je vous fais compliment sur le jugement prochain du grand procès. Je serai fort aise que cet heureux événement arrive sous mon règne. Love through his indifference. Our hearts Lettre 116. Le chevalier Danceny à Cécile Volanges. Madame de Merteuil est partie ce matin pour la campagne. Ainsi, ma charmante Cécile, me voilà privée du seul plaisir qui me restait en votre absence, celui de parler de vous à votre amie et à la mienne. Depuis quelque temps, elle m'a permis de lui donner ce titre, et j'en ai profité avec d'autant plus d'empressement qu'il me semblait, par là, me rapprocher de vous davantage. Mon Dieu, que cette femme est aimable et quel charme flatteur elle sait donner à l'amitié. Il semble que ce doux sentiment s'embellisse et se fortifie chez elle de tout ce qu'elle refuse à l'amour. Si vous saviez comme elle vous aime, comme elle se plaît à m'entendre lui parler de vous, c'est là sans doute ce qui m'attache autant à elle. Quel bonheur de pouvoir vivre uniquement pour vous deux, de passer sans cesse des délices de l'amour aux douceurs de l'amitié, d'y consacrer toute mon existence, d'être en quelque sorte le point de réunion de votre attachement réciproque, et de sentir toujours que, m'occupant du bonheur de l'une, je travaillerais également à celui de l'autre. Aimez, aimez beaucoup, ma charmante amie, cette femme adorable. L'attachement que j'ai pour elle, donnez-y plus de prix encore en le partageant. Depuis que j'ai goûté le charme de l'amitié, je désire que vous l'éprouviez à votre tour. Les plaisirs que je ne partage pas avec vous, il me semble n'en jouir qu'à moitié. Oui, ma Cécile, je voudrais entourer votre cœur de tous les sentiments les plus doux, que chacun de ces mouvements vous fît éprouver une sensation de bonheur, et je croirais encore ne pouvoir jamais vous rendre qu'une partie de la félicité que je tiendrai de vous. Pourquoi faut-il que ces projets charmants ne soient qu'une chimère de mon imagination, et que la réalité ne m'offre au contraire que des privations douloureuses et indéfinies. L'espoir que vous m'aviez donné de vous voir à cette campagne, je m'aperçois bien qu'il faut y renoncer. Je n'ai plus de consolation que celle de me persuader qu'en effet, cela ne vous est pas possible. Et vous négligez de me le dire, de vous en affliger avec moi. Déjà, deux fois, mes plaintes à ce sujet sont restées sans réponse. Ah, Cécile, Cécile, je crois bien que vous m'aimez de toutes les facultés de votre âme, mais votre âme n'est pas brûlante comme la mienne. Que n'est-ce à moi à lever les obstacles? Pourquoi ne sont-ce pas mes intérêts qu'il me faille ménager au lieu des vôtres? Je saurai bientôt vous prouver que rien n'est impossible à l'amour. Vous ne me demandez pas non plus quand doit finir cette absence cruelle. Au moins ici, peut-être vous verrai-je. Vos charmants regards ranimeraient mon âme abattue. Leur touchante expression rassurait mon cœur qui, quelquefois, en a besoin. Pardon, ma Cécile, cette crainte n'est pas un soupçon. Je crois à votre amour, à votre constance. Ah, je serais trop malheureux si j'en doutais. Mais tant d'obstacles, et toujours renouvelés. Mon ami, je suis triste, bien triste. Il semble que ce départ de Madame de Merteuil ait renouvelé en moi le sentiment de tous mes malheurs. Adieu, ma Cécile, adieu, ma bien-aimée. Songez que votre amant s'afflige et que vous pouvez seul lui rendre le bonheur. Lettre 117. Cécile Volanges au Chevalier Danceny, dictée par Valmont. Croyez-vous donc, mon bon ami, que j'ai besoin d'être grondée pour être triste, quand je sais que vous vous affligez? Et doutez-vous que je ne souffre autant que vous de toutes vos peines? Je partage même celles que je vous cause volontairement. Et j'ai de plus que vous de voir que vous ne me rendez pas justice. Oh, cela n'est pas bien. Je vois bien ce qui vous fâche. C'est que les deux dernières fois que vous m'avez demandé de venir ici, je ne vous ai pas répondu à cela. Mais cette réponse est-elle donc si aisée à faire? Croyez-vous que je ne sache pas que ce que vous voulez est bien mal? Et pourtant, si j'ai déjà tant de peine à vous refuser de loin, que serait-ce donc si vous étiez là? Et puis, pour avoir voulu vous consoler un moment, je resterai affligée toute ma vie. Tenez, je n'ai rien de caché pour vous, moi. Voilà mes raisons. Jugez-vous-même. J'aurais peut-être fait ce que vous voulez, sans ce que je vous ai demandé, que ce monsieur de Gercourt, qui cause tout notre chagrin, n'arrivera pas encore de si tôt. Et comme depuis quelque temps, maman me témoigne beaucoup plus d'amitié, comme de mon côté, je la caresse le plus que je peux, qui sait ce que je pourrais obtenir d'elle? Et si nous pouvions être heureux, sans que j'aie rien à me reprocher, est-ce que cela ne vaudrait pas bien mieux? Si j'en crois ce qu'on m'a dit souvent, les hommes même n'aiment plus tant leurs femmes, quand elles les ont trop aimées avant de l'être. Cette crainte-là me retient encore plus que tout le reste. Mon ami, n'êtes-vous pas sûr de mon cœur? Et ne sera-t-il pas toujours temps? Écoutez, je vous promets que si je ne peux pas éviter le malheur d'épouser M. de Gercourt, que je hais déjà tant avant de le connaître, rien ne me retiendra plus pour être à vous autant que je pourrai, et même avant tout. Comme je ne me soucie d'être aimé que de vous, et que vous verrez bien si je fais mal, il n'y aura pas de ma faute, le reste me sera bien égal. Pourvu que vous me promettiez de m'aimer toujours autant que vous faites. Mais, mon ami, jusque-là, laissez-moi continuer comme je fais. Et ne me demandez plus une chose que j'ai de bonnes raisons pour ne pas faire, et que pourtant il me fâche de vous refuser. Je voudrais bien aussi que M. de Valmont ne fût pas si pressant pour vous. Cela ne sert qu'à me rendre plus chagrine encore. Oh, vous avez là un bien bon ami, je vous assure. Il fait tout comme vous feriez vous-même. Mais adieu, mon cher ami. J'ai commencé bien tard à vous écrire et j'y ai passé une partie de la nuit. Je vais me coucher et réparer le temps perdu. Je vous embrasse, mais ne me grondez plus. I'm not number 23.
va 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 va.
Radio Grand Ciel.
Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel et nous vous donnons la parole sur notre page Facebook. Réagissez, commentez, faites-nous part de vos coups de gueule ou de vos coups de cœur et surtout, restez connectés à l'actualité de votre radio préférée.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.